Je parlais donc du fait, juste à l'instant, que la vie est nécessaire à la vie, que l'eau plutôt est nécessaire à la vie, je mélange un peu les pinceaux là, et que l'on pouvait rester des semaines entières sans manger, mais qu'en revanche, les gens qui font un jeûne ou même une grève de la faim ne s'arrêtent jamais de boire. L'organisme a absolument besoin de liquide pour que les organes fonctionnent correctement. On ne peut pas rester plus de quelques jours sans boire. Et ce besoin fondamental pour notre survie est aujourd'hui menacé parce qu'il se trouve que les ressources en eau ne cessent de s'amenuiser, à tel point que les experts considèrent qu'au XXIe siècle, l'or, donc la valeur la plus riche, la plus importante, l'or ne sera pas noir comme au XXe siècle avec la découverte du pétrole et tout son potentiel. L'or sera au contraire bleu. Parce que ce dont nous aurons le plus besoin, c'est d'une eau que nous arrivons à boire. L'Institut des ressources mondiales, un institut dont j'ignorais jusqu'à peu l'existence, considère qu'aujourd'hui, un quart de la population mondiale risque de se retrouver à court d'eau potable. Un quart, c'est tout de même absolument considérable, surtout quand on sait que nous sommes aujourd'hui 7 milliards, mais qu'en 2050, nous serons 9 milliards. Cette proportion ne pourra donc qu'augmenter. Cet Institut des ressources mondiales considère qu'aujourd'hui déjà, 17 pays se trouvent en situation de stress hydrique extrême. C'est la situation dans laquelle le pays en question utilise pratiquement toutes les ressources en eau potable à sa disposition, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune réserve au-delà et que donc lorsque la réserve est épuisée, eh bien on n'a tout simplement plus rien à boire. Pour vous donner un exemple, en 2018, la ville du Cap, en Afrique du Sud, a frôlé le jour zéro, c'est-à-dire le jour où les retenues d'eau dans ces différents barrages auraient été complètement asséchées et la ville, de ce fait, tout simplement assoiffée. Alors tout ceci, bien évidemment, est lié au fameux changement climatique, ce dérèglement du fonctionnement de notre climat planétaire dont on parle tant. Et parce que le climat se dérègle, il devient imprévisible. C'est-à-dire que les régimes de précipitation auxquels on est habitué deviennent complètement erratiques. Et au lieu de se dire, voilà, nous savons très bien qu'au printemps, il y a les pluies printanières, que cela viendra irriguer les champs et que par conséquent, on pourra compter dessus pour nourrir les plantes au moment de leur floraison. Et ensuite, on sait très bien qu'à l'été, il fera beaucoup plus chaud et beaucoup plus sec et que par conséquent, il faudra irriguer à ce moment-là. Mais il aura plu au printemps, nous aurons donc pu constituer des réserves d'eau que nous pourrons utiliser ensuite. Vous voyez tous ces cycles qui étaient bien connus et sur lesquels on pouvait compter, eh bien, ils ne sont plus du tout fiables. Et aujourd'hui, au contraire, on doit se retrouver à gérer une agriculture et un approvisionnement en eau avec des régimes de pluie complètement imprévisibles et avec des régions qui se retrouvent soudainement dans une sécheresse extrême, alors qu'un ou deux ans auparavant, elles étaient sous les eaux complètement inondées, comme on le voit d'ailleurs avec la ville de Venise aujourd'hui, qui connaît une élévation du niveau de l'eau telle qu'elle n'en avait pas connue depuis 50 ans. Le changement climatique s'accompagne d'un autre phénomène qui est particulièrement problématique, c'est que en moyenne, la température à la surface du globe a tendance à augmenter. Qui dit réchauffement dit plus d'évaporation de l'eau. Et c'est particulièrement problématique parce que l'eau, à l'état naturel, est stockée souvent sous forme de glace. C'est le fameux cycle de l'eau et je suis sûre qu'à l'école, quand on vous l'a appris, on vous a montré ce beau petit diagramme, ce beau petit dessin avec l'eau qui s'évapore, l'eau de mer qui s'évapore, qui monte en altitude, qui se condense sous la forme de nuages, que le vent pousse, les nuages qui arrivent contre les montagnes et qui de ce fait se heurtent au flanc de la montagne, si bien que l'eau se condense et tombe sous forme de pluie, la pluie qui vient nourrir la rivière qui... C'est bien connu avec la fameuse pomme de Newton, de par la gravité, s'écoule vers le bas, tombe d'amont en aval, et cette rivière qui, avec tous ses affluents, ensuite vient nourrir toutes les nappes souterraines, les nappes phréatiques comme on les appelle, dans lesquelles l'être humain, à son tour, vient puiser par le biais de puits et autres procédés similaires pour avoir quelque chose à boire. Bien, vous imaginez aisément donc que dans cette histoire, la montagne joue un rôle particulièrement important, et notamment parce que la montagne en altitude, il y fait froid, et que donc la pluie, quand elle s'y déverse, se déverse sous forme de neige. La neige qui se compacte, qui constitue des glaciers, qui ne sont jamais qu'une énorme réserve d'eau à l'état solide. Eh bien, avec le réchauffement de la planète, ce que l'on constate aujourd'hui, et ce pourquoi les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, et ce depuis un moment, mais à intervalles de plus en plus fréquents, c'est parce qu'avec le réchauffement, disais-je, de la planète, ces glaciers ont tendance à fondre, tout simplement. C'est le fameux recul des glaciers dont on parle. Et vous comprenez tout de suite que si notre réserve fond, ça veut tout simplement dire qu'on n'en disposera plus et que donc au moment d'avoir ou de puiser dans les réserves, on puise dans une ressource qui ne va pas se renouveler comme elle le faisait par le passé. Et pour l'avoir vécu avec le pétrole, on comprend tout de suite avec l'eau ce que cela signifie, que de puiser en permanence dans une ressource qui ne se renouvelle pas, c'est particulièrement préoccupant. Quand on parle du pétrole, cela veut dire que l'aviation est en danger, mais nous avons toujours voyagé. Nous avons voyagé à dos de chameau et à dos de cheval, bien avant de voyager dans des carlingues d'avion. Par conséquent, nous continuerons à voyager, ça n'est pas un souci, nous mettrons juste infiniment plus longtemps que ce à quoi nous sommes habitués. En revanche, nous avons toujours bu et nous aurons toujours besoin de boire de l'eau potable, de l'eau qui fait du bien à notre organisme. Et l'idée de ne plus en avoir à disposition, ça, c'est véritablement effrayant. Alors, tout cela, évidemment, aura des conséquences parce que qui dit denrées rares dit compétition et concurrence pour essayer de se l'approprier. Et on peut tout de suite imaginer que les premiers conflits au XXIe siècle seront des conflits qui seront liés à l'eau, ou plutôt au manque d'eau. Et je vais illustrer mon propos par des exemples très concrets. Parce que pour essayer de retenir l'eau et d'en avoir à disposition, la façon la plus efficace qu'a trouvé l'être humain à ce jour, c'est de construire un barrage. Sur un cours d'eau, lorsque vous construisez un barrage, vous retenez toute l'eau qui s'écoule et cela vous sert non seulement à avoir une énorme réserve d'eau douce à disposition, mais aussi très souvent à produire votre électricité, puisque en ouvrant les vannes, vous pouvez faire fonctionner les turbines qui à leur tour produisent l'électricité. Eh bien, il y a différentes régions du monde où l'on envisage la construction de barrages et cela ne sera pas sans conséquences. Pour vous donner un exemple, la Turquie a notamment décidé de construire, ou de développer plutôt le sud-est de l'Anatolie, avec la construction de 22 barrages, ce qui est un chiffre colossal, sur le Tigre et l'Euphrate. Mais le Tigre et l'Euphrate, qui sont pour moi des fleuves absolument mythiques, ce sont des fleuves qui s'écoulent sur une quantité impressionnante de centaines de kilomètres, et notamment qui s'écoule d'abord en Syrie et ensuite en Irak. Vous imaginez aisément que si à la source en Turquie, on construit 22 barrages pour retenir le flux de l'eau, l'approvisionnement en eau dans les terres qui suivent, et qui sont en partie désertiques, parce que l'Irak, ça n'est pas exactement une forêt luxuriante, vous imaginez donc toute la problématique qui va se poser, à tel point que la guerre civile qui sévit en Syrie depuis 4 ou 5 ans pourrait paraître une vaste plaisanterie à l'idée de ce qui se profile à l'horizon et qui risque bien d'être beaucoup plus grave. Je crois d'ailleurs que l'Irak n'a pas franchement mérité que l'on alourdisse encore le fardeau qui lui pèse sur les épaules après tous les conflits qu'a connus ce pays au cours des décennies écoulées. Je ne crois pas qu'il soit utile d'avoir d'autres sources potentielles de tension. Un autre fleuve est concerné aussi, un autre fleuve sur lequel on envisage de construire un barrage, et c'est cette fois-ci le Nil, parce que, vous ne le savez peut-être ou peut-être pas, mais la source du Nil se trouve bien plus haut en altitude, à savoir en Éthiopie, dans les hauts plateaux éthiopien, qui constitue une véritable réserve d'eau en Afrique de l'Est. Et l'Éthiopie, par conséquent, a envisagé, pour se développer, de construire le barrage de la Renaissance, comme ils l'appellent. Vous imaginez tout de suite la tête des Égyptiens. Les Égyptiens qui, depuis la plus haute antiquité, ont été les gardiens du Nil. Les Égyptiens dont toute la civilisation s'est élaborée par rapport à ce fleuve quasiment sacré pour eux, qui apportait la vie, notamment lorsqu'il débordait dans ses crues et déposait le limon riche sur les rives du Nil, qui permettait de cultiver et donc de subvenir aux besoins de la population, à tel point que tous les temples et pyramides des pharaons ont été construites soit sur une rive, soit sur l'autre, mais en tout cas à proximité. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé une carte satellite de l'Égypte, ou une photo plutôt satellite de l'Égypte, mais c'est tout à fait frappant. Là encore, une image vaut mieux que tous les discours, à savoir que vous avez un vaste désert et une fine ligne bleue et verte qui va du sud au nord du pays jusqu'à ce fameux delta qui se déverse dans la Méditerranée, car tout simplement la vie n'est possible qu'autour de cet axe primordial qui apporte l'eau. Voilà, c'était deux exemples concrets pour illustrer des conflits potentiels à venir dans les années et les décennies qui viennent et qui s'annoncent tout simplement parce que nous n'avons pas assez d'eau. Le manque d'eau sera à l'origine d'autres phénomènes qui sont déjà à l'œuvre et notamment, on le voit, entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord. Je vous disais que le manque d'eau va être à l'origine d'autres phénomènes, et notamment de phénomènes migratoires. Et j'ai tout de suite donné un peu une idée de là où je vais, puisque j'ai parlé de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons aujourd'hui la chance, le bonheur, la joie d'avoir comme occupant de la Maison Blanche un sinistre individu à la coiffure orange que tout le monde connaît à l'échelle du globe et qui ne serait qu'une vaste blague si on était resté au prénom de Donald, puisqu'à la rigueur, un canard qui fait coin-coin, c'est plutôt rigolo, c'est même pour ça qu'on l'a inventé. Malheureusement, ce Donald, derrière, il faut lui accoler le patronyme de Trump. Et c'est malheureusement ce sinistre individu que les Américains, dans leur infinie sagesse, n'est-ce pas, ont décidé de placer au plus haut poste de pouvoir politique exécutif en Amérique du Nord. Et ce monsieur, qui n'est pas connu pour ses prises de position ni réfléchies, ni fondées, ni légitimes, ni à vrai dire quoi que ce soit en fait, ce monsieur a décidé que la plus simple façon pour empêcher les gens de rentrer chez lui, c'était de construire un mur, ce fameux mur qui constitue son obsession personnelle, dont on ne sait pas très bien qui est censé le construire ni qui est censé le payer, et ce fameux mur qui bien évidemment est un contresens historique total, puisque l'on sait depuis les premiers ghettos de l'histoire qu'à chaque fois que l'on a construit un mur, c'était avec de très mauvaises intentions, et qu'à chaque fois que l'humanité a fait un bond en avant, c'est en abattant les murs, justement, et je crois que le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin en est encore une fois la preuve éclatante. Bref, ce monsieur qui a des poussées d'urticaire à chaque fois qu'il voit un Mexicain ou quelqu'un qui ne lui ressemble pas, et pour cela, je veux dire tout simplement quelqu'un qui n'est pas blanc. Ce monsieur donc a décidé d'ériger un mur essentiellement pour empêcher aux gens d'Amérique centrale de rentrer. L'Amérique centrale, c'est le Honduras, le Salvador, le Guatemala. Les gens qui essayent d'émigrer vers les États-Unis sont des gens qui viennent principalement de ces pays-là. Eh bien, on estime que dans ces vagues de migration, il y a 80% d'hommes, et une majorité de ces hommes travaillaient, avant de tenter d'arriver aux États-Unis, travaillaient dans l'agriculture. Par conséquent, ce phénomène tant décrié par le locataire de la Maison Blanche est un phénomène parfaitement naturel, parfaitement compréhensible, et à la racine de ce problème, il y a tout simplement le manque d'eau. Le fait que des fermiers, des agriculteurs au Honduras, par exemple, n'avaient pas assez d'eau pour irriguer, pour cultiver et pour tout simplement survivre. Bien, évidemment, là, j'ai dressé un panorama plus ou moins négatif, très pessimiste, très, comment dire, très déprimant de la situation. Je vais essayer de me rattraper par un deuxième volet un peu plus positif parce que vous connaissez le dicton français, nécessité fait loi. C'est quand on a besoin de quelque chose qu'on essaie de trouver les solutions pour répondre à ce besoin. On dit aussi que nécessité est mère de toutes les inventions. C'est encore une fois, c'est lorsqu'il est confronté à des difficultés que l'être humain doit inventer quelque chose. Et en l'occurrence, je me suis rendu compte que effectivement, l'être humain n'avait pas manqué d'ingéniosité pour aller chercher l'eau potable là où elle se trouve. Et en l'occurrence, dans tous ses états physiques, que ce soit l'état solide, l'état liquide ou l'état gazeux. Cela fait donc bien longtemps que l'on sait creuser des puits pour aller chercher l'eau liquide, mais dans des pays dans lesquels l'eau potable vient vraiment à manquer, on n'hésite pas non plus à aller chercher l'eau liquide de la mer. Et c'est ainsi qu'en Arabie Saoudite, 50% de l'eau qui est consommée est de l'eau désalinisée. De l'eau de mer, tout simplement, dont on a retiré le sel pour pouvoir la consommer. Évidemment, le phénomène n'est pas sans répercussion, parce que l'équilibre de nos mers et de nos océans tient justement au fait que ces mers et ces océans contiennent de 2 à 4% de sel. Or, vous savez qu'il y a des poissons qui vivent très bien en eau douce, mais les poissons de mer, eux, ne survivent pas nécessairement dans une eau avec trop de sel. Pour citer une région du Proche-Orient, à savoir Israël et la Cisjordanie, entre les deux, vous avez ce qu'on appelle la mer morte. Et si on dit qu'elle est morte, c'est littéralement parce qu'elle est morte. C'est une mer où tous les touristes se font photographier avec les doigts de pied en éventail qui sortent de l'eau sans difficulté parce que la concentration en sel est de 27,5%, donc largement au-delà de tout ce que l'on connaît ailleurs. Cela fait que l'on flotte très très bien. Archimède, pour citer un autre scientifique antique, serait absolument ravi de le constater. Ceci étant dit, cette mer est morte, il n'y a aucun poisson dedans. Il n'y a pas un organisme vivant que nous ne puissions manger qui soit pas capable de survivre à des concentrations telles. Donc la désalinisation n'est pas non plus la panacée. Je parlais de l'eau liquide, donc l'être humain a essayé de s'en procurer à cet état-là, mais aussi à l'état solide, je le disais, car j'ai été très surprise de découvrir qu'au Canada, certains se sont spécialisés dans la chasse aux icebergs. En effet, la banquise qui se constitue en hiver et qui est une énorme réserve d'eau douce, arrivé le printemps, lorsque les températures se réchauffent, a tendance à se déliter et c'est à ce moment-là que se détachent d'énormes blocs de glace qui flottent et dérivent à la surface des mers. Et un des entrepreneurs dont j'ai entendu parler a fait sa spécialité de la chasse aux icebergs. Il part en mer pour harponner les icebergs au large du Groenland et les tracter jusqu'en Terre-Neuve pour ensuite les remonter à terre, les faire fondre et récupérer l'eau douce qu'ils contiennent, ce qui lui permet de commercialiser une très grande quantité d'eau mise en bouteille. Pour vous donner une idée, chaque été, il estime qu'il récolte comme ça quelques 1000 tonnes de glace pour la revendre. Et quand je vous disais que l'eau douce va devenir une denrée précieuse, c'est une eau qu'il revend au Proche-Orient quelques 10 euros la bouteille, ce qui est un prix absolument faramineux. Nous avons fait l'état liquide, nous avons fait l'état solide, reste l'état gazeux. Et là encore, ma surprise a été grande de constater que l'être humain est en mesure de récupérer la brume ou le brouillard. Et pour cela, comme d'habitude, l'être humain s'est tout simplement inspiré de la nature. Nous n'inventons jamais vraiment rien que la nature n'ait pas inventé avant nous. Et en l'occurrence, les chercheurs se sont inspirés des séquoias, qui sont des arbres qui poussent en Californie du Nord et qui ont la particularité d'avoir non pas des feuilles, mais des petites épines. ces petites épines autour desquelles se condense l'eau du brouillard que l'on voit très souvent sur la côte de Californie et qui condense les gouttelettes pour en faire des gouttes de façon à ce qu'elles soient suffisamment lourdes pour tomber au sol et pour venir humidifier donc le terrain sur lequel pousse l'arbre et venir l'humidifier juste au-dessus des racines qui lui permettent de prélever l'eau dont il a besoin pour se développer. Eh bien, c'est une situation tout à fait similaire qui a été mise en œuvre au Guatemala, puisqu'à flanc de montagne, on a planté toute une série de filets. Et il faut savoir que la chose est technique, parce que si les mailles sont trop grandes, eh bien, les nuages vont tout simplement passer à travers. Et si les mailles sont trop petites, en arrivant dessus, le nuage va plus ou moins se bloquer et l'eau va venir complètement saturer la fibre, si bien que le seul résultat, c'est que vous obtiendrez un filet détrempé, un linge complètement détrempé qui ne vous sert pas à grand-chose. Il faut donc que la maille soit intermédiaire pour attraper le nuage et pour que les gouttelettes qui sont attrapées, encore une fois, condensent et descendent le long de la fibre jusqu'à pouvoir être collectées dans un réservoir. Le résultat est tout à fait impressionnant puisqu'on estime, comme cela, pouvoir récupérer jusqu'à 200 litres d'eau potable par jour. Je crois qu'il est important de mentionner quelques chiffres pour mettre ces 200 litres un peu en perspective. Pour vous donner une idée, chaque jour, l'être humain doit boire entre 2 et 3 litres pour être en bonne santé. Pour vous donner une idée, tirer la chasse d'eau, c'est à peu près entre 10 et 12 litres. Faire la vaisselle, ça peut rapidement représenter 15 à 20 litres. Voyez, un petit peu pour vous donner une idée de ce que ça représente que d'arriver à récolter 200 litres en une seule journée, ça permet de faire boire quand même combien 200 litres, ça fait permettre de faire boire 100 personnes. Ça permet de faire boire un certain nombre de villages. Ça n'est pas négligeable du tout. Voilà, donc j'ai essayé de faire un petit peu un panorama de l'eau, un panorama du fait que nous en manquons, un panorama du fait aussi que nous pouvons en récolter. Ceci étant dit, c'est une ressource qui est trop précieuse pour qu'on n'essaye pas de l'économiser. C'est la raison pour laquelle je ne peux que vous inviter à adopter un certain nombre de gestes qui permettent de le faire. Ce n'est pas parce qu'on ne manque pas d'eau à Prague qu'il ne faut pas commencer par là. La bonne chose à faire, c'est par exemple de couper le robinet lorsqu'on se brosse les dents, de couper le robinet lorsqu'on prend sa douche aussi. Et je suis la première à savoir combien en hiver c'est difficile lorsque la salle de bain est froide et qu'on a envie de rester au chaud. J'ai découvert aussi qu'il ne servait à rien que je m'acharne à faire la vaisselle à la main, parce qu'en fait, je consomme beaucoup plus d'eau que mon lave-vaisselle, qui lui a été fait pour être beaucoup plus efficace. Et la chose qu'il est difficile de mettre en œuvre, mais qu'un de mes amis a réussi à faire, parce qu'il vit à la campagne, que c'est plus facile, c'est remplacer les toilettes à eau par des toilettes sèches, comme on dit, où tout simplement on utilise de la sciure pour équilibrer les déjections humaines, et on en fait tout simplement ce qu'on appelle du compost, du fumier, et donc de l'engrais. Voilà, tout se recycle sur cette planète, même si nous n'avons pas forcément envie de le savoir. Ceci étant dit, quand on imagine qu'une chasse d'eau, c'est 12 litres d'eau potable, et que donc plusieurs fois par jour, on utilise de l'eau qu'on pourrait boire à tout simplement chasser nos déjections, ce n'est pas non plus la meilleure utilisation qu'on puisse en faire. Tout ça pour dire que notre planète, c'est un petit peu comme la Station Spatiale Internationale. C'est finalement un tout petit écosystème perdu dans un très vaste cosmos, dont les ressources ne sont jamais limitées, ne sont jamais illimitées plutôt, quel lapsus, ne sont jamais illimitées, même si certaines parfois sont renouvelables. Et nous avons donc tout intérêt à préserver l'eau comme une ressource absolument précieuse. Merci.